Europe 1 Soir Weekend.
18h-19h, Arthur Meurioux.
De retour dans Europe 1 Soir Weekend. C'était le 27 janvier 1945. Le camp d'Auschwitz-Birkenau était libéré. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, plus d'un million d'hommes, de femmes et d'enfants y ont été exterminés. Près de 90% d'entre eux étaient de confession juive. 79 ans après, tous les 27 janvier, nous commémorons la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah. 79 ans après, nous avons le devoir de nous rappeler les atrocités commises par le nazisme à l'encontre des juifs. Mais 79 ans après, les souvenirs s'effacent, les témoins disparaissent et la connaissance de cet événement historique s'affaiblit. Les chiffres sont là. 18% des 16-24 ans affirment ne jamais avoir entendu parler de la Shoah et seulement 39% savent ce qu'est la rafle du Veldiv. Des chiffres d'autant plus inquiétants en raison de la recrudescence des actes antisémites depuis l'attaque terroriste en Israël perpétrée le 7 octobre dernier. Plus 1000% en seulement 3 mois. Ce soir, dans Panorama, on s'intéresse à ce devoir de mémoire que nous devons à ces victimes de la Shoah et aux victimes de l'antisémitisme. Pour en parler, Yonatan Arfi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du CRIF. Et bonsoir, François Heilbronn.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président du Mémorial de la Shoah. Avant d'échanger autour de ce devoir de mémoire, nous recevons un témoignage, celui d'Esther Senot. Bonsoir. Bonsoir Esther Senot, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir, oui, je vous entends.
Vous avez été déporté à l'âge de 15 ans parce que vous étiez juive, amené au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Votre histoire, vous la racontez dans votre livre « La petite fille du passage Ronce » aux éditions Grasset. En ce jour si particulier, Esther Senot, craignez-vous que votre histoire et celle des millions de déportés pendant la Seconde Guerre mondiale soient oubliées ?
Mais écoutez... J'espère que non, parce que finalement j'ai tellement fait de collège, de lycée, des interventions un peu partout en France et même en Europe, que j'espère, j'ai reçu tellement de lettres d'élèves, j'ai même des élèves que j'ai eu au niveau de la troisième et qui sont devenus enseignants. Enfin, j'ai des retours extraordinaires. Alors, je suppose que parmi tous ces jeunes qui m'ont écouté, ils passeront le relais, que ça continuera. Mais enfin, vous savez, puis à l'heure actuelle, j'ai un problème, c'est que je suis hospitalisée, je suis aux Invalides, mais le jour de mon anniversaire, le 5 janvier, je me suis fait une fracture du bassin.
Mais quand vous alliez à la rencontre de ces jeunes collégiens, ces jeunes lycéens, Esther Senot, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disaient après avoir livré votre témoignage ? Quels étaient leurs ressentis ?
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sollicité par les professeurs d'histoire, ils ont déjà préparé les élèves, si vous voulez. Parce que on ne va que dans les établissements dès l'instant où on est sollicité. C'est-à-dire que les professeurs d'histoire sont informés, ça les intéresse. Alors évidemment, on tombe toujours sur des élèves qui sont impatients de nous écouter, c'est content de nous recevoir. Ils nous posent des questions. Alors des fois, évidemment, il y a des questions où on a des difficultés à répondre. Enfin, dans l'ensemble, on trouve toujours une réponse à leur donner. Alors disons que quand je finis mon témoignage, j'ai toujours un discours pour dire que tous les enfants du monde sont pareils, enfin pour combattre le racisme et l'antisémitisme, disons que la dictature s'amène à Auschwitz, qu'ils soient vigilants à l'avenir, parce que quand ils auront le droit de vote, et bien de faire très attention, parce que entre la dictature et la démocratie, la dictature s'amène à Auschwitz.
Promets-moi de dire au monde ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres. Cette phrase, c'est votre sœur Fanny qui l'a prononcée avant d'être assassinée dans les chambres à gaz. Une phrase qui porte malheureusement un nouvel écho depuis le 7 octobre dernier, l'attaque terroriste du Hamas. Pensez-vous qu'il y a eu une nouvelle bascule de l'histoire, comme vous avez pu le vivre dans les années 30, quand vous avez quitté la Pologne ?
C'est-à-dire, la Pologne était toujours un pays très antisémite. Évidemment, ça a toujours été, puis je pense que ça n'a pas tellement changé à l'heure actuelle. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que la parole s'est libérée, qu'il y a une recrudescence. Et puis, à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces communications, la parole ne s'était pas libérée. Et puis alors, là, ce que je redoute actuellement, c'est toutes ces différentes religions se replient sur elles-mêmes. Il n'y a pas de communication, c'est la haine, quoi. J'ai l'impression que j'entends les mêmes propos actuellement que ceux que j'ai entendus en 1940. Alors,
allez-y, Esther Senot.
Pendant des années, ça a été formidable, on nous écoutait, c'était formidable, et que maintenant, vous avez dans certains quartiers, vous avez des enseignants qui n'osent même plus parler de la Shoah.
Merci, merci pour ce témoignage, Esther Senot. On va continuer notre débat autour de ce devoir de mémoire qui, vous l'avez dit, est si important. Je le rappelle, votre livre, La petite fille du passage Ronce, est publié aux éditions Grasset. Jonathan Arfi, ce que vient de dire Esther Senot, c'est extrêmement important. Plus que jamais, le devoir de mémoire est plus que primordial dans notre société en 2024.
Bien sûr, on est dans une société qui a perdu le sens de l'histoire, qui vit dans l'instant présent et qui néglige peut-être de regarder dans le rétroviseur, d'interroger les anciens et de comprendre ce qu'il y a à comprendre de ce que nous avons vécu. Et dans ce que nous avons vécu, la Shoah est un temps particulier, un temps où une passion exterminatrice a pu être menée à son terme, un temps où la folie collective a pu entraîner, dépasser toutes les réserves individuelles, si ce n'est quelques justes, quelques résistants qu'il faut saluer. Nous avons besoin, dans des moments de doute, comme les moments que nous traversons aujourd'hui dans une France fragmentée, dans une France qui se sent menacée, eh bien, nous avons besoin d'être capables de trouver dans notre histoire des ressources pour regarder demain. Et ce que vient de dire Esther Senot est fondamental parce qu'elle fait ces liens entre les défis d'aujourd'hui et l'histoire qu'elle a vécue.
Vincent Elbron, on a écouté Esther Senot, je l'ai dit, sa parole est très rare. Dans plusieurs années, cette parole, elle n'existera plus physiquement. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer de faire vivre ce devoir de mémoire sans les principaux témoins, les principales victimes de cette folie du nazisme ?
J'étais très ému d'entendre mon amie Esther Senot et je lui souhaite très bon rétablissement. C'est une femme absolument courageuse qui est venue témoigner, comme elle l'a dit, dans les lycées et les collèges et au mémorial de la Shoah. Au mémorial de la Shoah, nous rencontrons chaque année, soit au mémorial, soit dans les 6 sites que nous gérons en France, comme dans plein de lycées, nous rencontrons 100 000 collégiens et lycéens. Nous formons aussi 6 000 professeurs. Et c'est un peu la promesse que nous faisons aux rescapés qui nous ont aidés, nous ont accompagnés dans l'aventure du mémorial de la Shoah depuis plus de 80 ans maintenant, parce que ça a été créé en 43 pendant la guerre, c'est justement plus jamais ça, et que cette horreur ne revienne pas, et qu'on essaye de tirer le plus possible les enseignements de l'histoire. Et ces témoignages de rescapés ont été extraordinaires. On les a tous filmés, tous enregistrés. On les peut les voir en mémorial. Nous les diffusons souvent sur notre site. Mais au-delà de ça, il y a le travail des historiens, le travail des archivistes. Par exemple, un très grand historien français qui est Laurent Joly a fait un travail absolument remarquable sur la collaboration de l'État français de Vichy avec le régime nazi dans l'extermination et la déportation des Juifs de France. Et c'est ce travail d'histoire. Donc le terme de devoir de mémoire est important, mais c'est aussi enseigner l'histoire. Et quand vous avez relaté le sondage que vous avez évoqué, que 18% des jeunes Français ne savaient pas ce que c'était la Shoah, ben j'inverserai le propos. Il y a quand même 82% qui le savent. Et c'est un des chiffres les plus hauts en Europe. Et c'est par l'engagement d'institutions comme le Mémorial de la Shoah, mais il y en a d'autres, et aussi de l'Éducation nationale française, que nous enseignons ça. Mais il faut en tirer, comme l'a dit Jonathan Arfi, il faut en tirer les enseignements, et d'ailleurs Esther l'a dit aussi, il faut en tirer les enseignements face à la montée de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Enseigner la Shoah ne protégera plus contre la montée de l'antisémitisme. Il faut réfléchir aussi à d'autres types d'enseignements. Mais la réflexion qu'on peut avoir sur les crimes nazis, la haine, la propagation de la haine, la montée de la haine et la mise en œuvre de la haine qui conduit à un génocide, qui fait le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des Arméniens pendant la première et des Tutsis il y a 30 ans, eh bien, tous ces phénomènes, faut bien y faire attention. Et comme vous l'avez dit aussi, les crimes du Hamas palestinien le 7 octobre 2023, même si c'était pas un génocide, il y avait une volonté génocidaire, il y avait une tentative de pogrom de masse. Et ce qui est inquiétant, et je pense qu'on va peut-être l'évoquer avec Jonathan maintenant, ce qui est inquiétant, c'est la montée d'antisémitisme qui a suivi ce crime.
Oui, puisqu'on parle de plus 1000%, c'est un rapport du CRIF, plus 1000% d'actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. Jonathan Arfi, la situation est-elle en train de nous dépasser ?
D'une certaine manière, oui, les digues sont tombées, puisqu'on a un antisémitisme qui a changé d'échelle. Nous avions, dans les années 90, quelques dizaines d'actes antisémites enregistrés chaque année par le ministère de l'Intérieur et le service de protection de la communauté juive, qui publie chaque année ces chiffres. De 2000 à 2022, nous avons eu quelques centaines d'actes antisémites chaque année. Dans 2023, c'est donc la première fois depuis la guerre, depuis qu'on enregistre les chiffres de cette manière-là, qu'on a compté les actes antisémites en milliers. Donc c'est un vrai changement d'échelle. Et ce lien, cette explication, elle se fait avec le 7 octobre. Le 7 octobre a servi de catalyseur. Il a réveillé, désinhibé un antisémitisme qui était présent en France. Ce n'est pas un antisémitisme importé, c'est bien un antisémitisme en France qui a été enclenché, activé par le 7 octobre. Et il n'a pas attendu l'opération militaire israélienne à Gaza. Les actes antisémites ont commencé dès la journée du 7. Et c'est donc l'antisémitisme premier, initial du 7 octobre, qui a généré et déclenché la vague qui a suivi. Donc oui, nous sommes face à un défi d'une immense envergure. Et je voudrais dire un mot aussi sur la question de la mémoire de la Shoah. On traite souvent la question sous l'angle du négationnisme, en disant que ce qui menacerait la mémoire de la Shoah serait avant tout le négationnisme ou l'ignorance complète de la Shoah. Or, finalement, c'est une bataille qu'on a d'une certaine manière gagnée. Le négationnisme existe, mais il est extrêmement marginal dans la société française, y compris parmi un certain nombre de militants qui ont renoncé à cette posture-là. En revanche, ce qui menace la mémoire de la Shoah, et ça fait des liens avec les questions d'aujourd'hui, c'est la question du relativisme, c'est la question de la minimisation, c'est des questions de concurrence mémorielle qui installe des discours dangereux et qui, pour le coup, dénature à la fois la spécificité de ce qui s'est passé dans les expériences génocidaires que sont la Shoah, le génocide des Arméniens, le génocide des Tutsis que François Hellebaune a rappelé, et qui doivent nous amener à être très vigilants sur ces garde-fous historiques et scientifiques dans le regard qu'on porte sur ces sujets.
Parce que le nazisme continue, d'une certaine manière, d'influencer de nouveaux milieux maintenant, des gens proches du Hamas, où on a retrouvé des textes proches des textes du nazisme. Finalement, il s'est transféré d'une partie de la population à une autre.
Alors, il y a un indicateur assez parlant, c'est que dans... parmi les actes antisémites qui ont été recensés en 2023, un certain nombre d'entre eux faisaient référence à la question palestinienne. Et parmi ceux qui faisaient référence à la question palestinienne, eh bien 10% d'entre eux faisaient en même temps l'apologie du nazisme. C'est-à-dire qu'il existe des raccourcis qui sont faits et qui témoignent de la continuité parfois de l'antisémitisme qui saute d'un milieu à l'autre, qui a cette capacité malheureusement à circuler. On l'a vu, il a existé des antisémitismes d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, complotistes, de toute nature, mais très souvent, les stéréotypes, les rhétoriques sont similaires.
François Hellebaune, vous l'avez dit tout à l'heure, je reviens un peu sur le devoir de mémoire, parce que vous l'avez dit, les éléments sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est jouer sur l'accessibilité, c'est rendre que tout le monde ait accès à ça, que tout le monde puisse l'entendre, alors que c'est pourtant compliqué, parfois, dans certains milieux, d'avoir accès à ces témoignages, à ces connaissances. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour les rendre accessibles ?
Alors non, d'abord c'est dans les programmes scolaires, hein, c'est dans les programmes scolaires, même dès le primaire, dès la dernière classe de primaire,
mais
en troisième et en première.
Mais ça va devenir compliqué dans certains milieux d'apprendre ça à certains élèves.
Alors non, parce que c'est le travail de l'éducation nationale. Donc ça, c'est le travail de l'éducation nationale. Et comme je vous l'ai dit, on informe tous les ans 6000 professeurs d'histoire géo en France en mémoire de la Shoah, à l'enseignement des grands génocides, pas que de la Shoah, des grands génocides, parce que justement on n'est pas dans la concurrence victimaire. Et on leur donne les outils pédagogiques pour pouvoir l'enseigner. Alors parfois, il est vrai que dans certaines classes, c'est difficile de l'enseigner, mais un professeur qui a été formé par le mémorial, qui est à la fois très fort sur ses bases, sur le fond historique, mais aussi connaît les techniques pédagogiques pour un peu désamorcer la critique et l'énervement. Par exemple, quelque chose qui est classique, c'est qu'il commence à aborder l'histoire de la Shoah en disant « on va parler du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale », il y a un élève qui va se lever et qui va dire « et le génocide des Palestiniens ». Et à ce moment-là, le professeur, certains professeurs mal formés vont s'arrêter et vont dire, bon, on va passer à un autre sujet. Mais les professeurs bien formés vont dire, c'est intéressant ta question, c'est quoi un génocide? Alors évidemment, l'élève ne sait pas ce que c'est qu'un génocide. Donc il faut déconstruire ces comparaisons oiseuses, il faut déconstruire les discours de haine, et on donne tous ces outils aux professeurs. Et c'est important de les muscler, de les former, parce que évidemment, une fois qu'on a défini le génocide, bah, le génocide, c'est la volonté forte d'exterminer tout un peuple et de se donner les moyens techniques de le réaliser. Donc dans le cas des Palestiniens, c'est absolument pas le cas, même si l'Afrique du Sud a eu la honte de porter cette accusation devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui était absolument scandaleux. Heureusement, la Cour internationale de justice de La Haye ne l'a pas retenu. Mais c'est ce détournement qu'évoquait Jonathan. Il faut faire attention aux mots, il faut définir ce que c'est qu'un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un génocide. Et on le voit très bien d'ailleurs dans les discours même politiques en France. Certains députés qui n'y connaissent rien ou qui sont malveillants osent accuser Israël aujourd'hui de génocide, là où les génocides, c'est quelque chose de très précis, c'est quelque chose qui est défini en droit international, c'est quelque chose qu'on peut comprendre et analyser sur le plan historique. Et ce sont tous les outils que le Mémorial de la Shoah met à la disposition de l'éducation nationale et des professeurs pour que justement on essaye d'éveiller les consciences dans les classes, au-delà de ce qu'ils peuvent entendre sur les réseaux sociaux, qui sont, comme l'a dit Jonathan, des vecteurs de haine, et aussi de ce qu'ils peuvent parfois entendre à la télévision et dans d'autres médias.
Jonathan Arfi, former les professeurs, c'est par là que ça va pas... La solution est dans cette formation ?
Oui, nécessairement, on ne pourra pas gérer cette question sans s'adosser pleinement sur l'éducation nationale. Il faut comprendre que nous avons tous maintenant une responsabilité. Nous sommes tous témoins des témoins, hein, selon cette formule bien connue, qui fait que nous avons la responsabilité demain, quand la parole des témoins, malheureusement, sera moins présente et s'éteindra, de porter leur message, d'être capable aussi de faire entendre ce qu'il y avait de singulier, en fait, dans la Shoah. Moi, je suis souvent frappé par le fait que on a besoin d'effacer la spécificité pour en faire entendre le message universel. Il y a dans la Shoah une dimension spécifique, singulière, et il y a en même temps dans l'histoire de la Shoah, évidemment, une portée universelle. Il faut être capable de décrire et de respecter les deux dimensions.
Merci beaucoup, Jonathan Arfi, président du CRIF, d'avoir participé à ce panorama consacré au devoir de mémoire. Merci aussi à François Heilbronn, vice-président du Mémorial de la Shoah. Et merci à Esther Senot, rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau. Je le rappelle, parce que c'est important en ce jour, son livre est à retrouver aux éditions Grasset, La petite fille du passage rond, parce que c'est aussi ça qui permettra eh bien, de se souvenir des victimes de la Shoah, lire leurs livres. Parfois, il y a aussi des bandes dessinées qui peuvent peut-être être aussi données aux plus jeunes pour qu'ils puissent le comprendre dès plus jeune âge, et on aura compris l'importance du devoir de mémoire dans ce contexte très compliqué de 2024 depuis l'attaque terroriste du 7 octobre.